France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, 3. Hein ? Encore une fois ?
Le cri du patchwork.
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui effleure la membrane des tympans. Et nous commençons aujourd'hui avec une nouvelle série d'émissions autour d'une thématique qui flirte avec vos oreilles. Nous parlerons d'intime. Non pas celui du journal intime, mais l'intime comme le proche, l'intérieur, la minutie. Et on commence ce mardi par recevoir un duo d'artistes qui chamboule nos sens dans un spectacle fraîchement créé à la Pop à Paris, dans le cadre du festival Séquence Danse du 104. Sous vide, c'est le nom de la performance donnée du 7 au 9 avril dernier par Aliénor Daucher, metteur en scène et performeuse tout-terrain, et Dimitri Kroulianski, compositeur au plus près de ce que peut lui offrir tout objet, toute situation. Un spectacle qui nous parle de cavernes, de grottes, de frigos, de solitude, d'espaces confinés, de sons lointains et proches à la fois. Et comme chaque mardi, un son éclaté à la pioche. Le cri du patchwork, thème numéro 26, épisode numéro 1, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Lamellophone. Toute cette famille d'instruments constituée de lamelles, en métal, en bambou, en bois, que l'on frotte, pince, effleure avec la pulpe des pouces. D'où son surnom de piano à pouces. Alors que les lamellophones portent mille noms. Kalimba, Sanza, Kankobele, Mbira. Des noms associés aux différentes ethnies d'Afrique subsaharienne, où on peut les rencontrer. Écoutez cette Mbira du Zimbabwe. Présente en particulier dans la population Shona. On entend dans le geste de Simon Machoko toute la finesse et la petitesse de chaque impulsion sur les lamelles. Une image sonore de l'intime, où le micro tente de s'approcher de l'instrument comme aucune oreille ne peut le faire. La Mbira, ou comment dialoguer avec les esprits dans une menue conversation.
Da vacuma kudo,
pamunere rimukari ningoma rimukari ningoma yova kumakuru tabva kumakuru kwamunere ayo werere baba ayaya ayaya ayo werere baba.
Alors évidemment, ce son intime du lamellophone est devenu très rapidement la marque d'une musique New Age, à base de méditations molles et autres nappes sonores hypnotisantes. Ou comment faire de la musique estampillée nature et découverte, même lorsqu'on s'appelle Earth, Wind and Fire. Ces utilisations planantes du lamellophone, on gomme souvent toute la saveur de ces instruments discrets, mais au timbre extrêmement riche. Déjà par leur accord, toujours différent en fonction de leurs utilisations. Leur mode de jeu, leurs possibilités acoustiques, si on leur adjoint des résonateurs par exemple. C'est peut-être pour cela que le lamellophone est devenu l'instrument de prédilection de nombre de conteurs, parce qu'il n'est pas trop bruyant et capable de créer des boucles facilement. Je vous propose un conteur pas comme les autres, David Moss, vocaliste tout-terrain, en réponse à la voix ductile de Catherine Jogneau. Ici, le lamellophone à la sonorité atypique crée un terrain propice à l'improvisation, à l'expérimentation par sa boucle sans fin. Pour faire un lamellophone, il suffit d'avoir une lamelle, quelle qu'elle soit. Prenez une règle en plastique par exemple. En la tenant fermement sur le rebord d'une table et en modifiant sa longueur vibrante au-dessus du vide, vous obtenez un lamellophone du meilleur effet. Qui n'a pas tenté la chose sur les bancs de l'école? En tout cas, le percussionniste Jean-Pierre Drouet a enrichi son instrumentarium délirant avec ce lamellophone de fortune, comme on peut l'entendre dans ce trio avec Fred Friss à la guitare et Louis Clavis à la clarinette. Un lamellophone qui fait... le musicien mécano Pierre Bastien use régulièrement du lamellophone en tant qu'instrument ou en tant qu'installation. Inventeur de mécanismes jouant des objets sonores de manière autonome, Pierre Bastien fait souvent appel à de petits lamellophones produisant des boucles souvent instables, boiteuses, mais qui créent l'identité de sa musique intimiste, comme ce « peep » que l'on vient d'écouter. Ici, la boucle de lamellophone n'est pas destinée à devenir un carcan rythmique pour les autres éléments de la composition. Un peu comme dans ce « Got my motlust voit » du percussionniste et expérimentateur Hearn Gadbois. Il semblerait que la voix de Muddy Waters, renversée dans tous les sens, pose ici un flow déstructuré sur un maillage entre Mbira du Zimbabwe, Shekere du Brésil et Conga de Cuba. Un bon vieux mélange foutraque.
Down to the way, say, and take back this mojo. I'm going down to the way, say, and take back this mojo. Then I'll catch a good son, I dare ya. Get me a better mojo.
En parlant de mélange improbable, le compositeur Lou Harrison tente tout ce qui est possible. Dans sa Music for Violin with Various Instruments, il n'hésite pas à faire jouer au violon soliste une mélodie d'influence chinoise, semble-t-il, accompagnée par quatre mbira. Peut-être que pour lui, le point commun entre ces deux musiques serait le pentatonisme, ces échelles à cinq sons extrêmement partagées dans le monde, mais aux deux extrêmes. Mélangeons maintenant le son du lamellophone avec un orchestre de free jazz tout entier. Vous allez me dire, on ne l'entend pas. Eh bien, c'est exactement le cas dans ce Sitarama Anchors de Don Cherry. Écoutez la toute fin. On entend quelques notes d'un lamellophone qui s'est perdu dans le cri tonitruant de tous les autres instruments. Émouvant. Sous la mélophone. Nombre de musiciens ont eu le désir d'imiter ces petits sons de la mélophone venus d'Afrique avec leurs instruments occidentaux. Frédéric Aurier, compositeur et violoniste, dans ses Impressions d'Afrique pour quatre violoncelles, demande à étouffer la résonance des cordes en y posant une pince à linge, par exemple, permettant alors à ses instruments à cordes de faire entendre le pouce, la pulpe du pouce, comme sur une mbira. Tentative d'imitation du lamellophone, le contrebassiste Renaud Garcia-Fonce, qui coince une feuille de papier entre les cordes de son instrument pour recréer le son complexe du kalimba. Certains diront un son sale, d'autres un son bruité. Je préfère un son épais. Et ceux qui ont poussé le son épais du lamellophone au plus haut point, c'est Konono numéro 1, groupe né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui en plus des bzzz et autres buzz de leur lamellophone, l'ikembe, ajoute une bonne couche de saturation cradingue et omniprésente. Voici Coulé Coulé, qui a été repris par ZX, ensuite un autre groupe cradingue et épais. D'utiliser le lamellophone comme un effet, un bruit, par ses sons bzzz nés de toutes parts. Dans El Cimarone, l'histoire de l'esclave fugitif Esteban Montero, Hans Werner Henze incorpore des sons de lamellophone dès le début de cette œuvre de plus d'une heure. Sans aucun doute pour évoquer le chemin des esclaves d'Afrique à Cuba, au cœur du propos de cette œuvre ô combien engagée. Mais aussi comme boîte à sons, comme bruiteur efficace dans ce fatras d'instruments de percussion qui émaille la partition folle de Hans Werner Henze.
Ist es Ihnen einfiel auf Ihrem Schiff die roten Tücher zu schwenken? Als die schwarzen Könige das sahen, riefen sie: Lauf, bring ihr das rote Tuch! Und die schwarzen die Lämmer auf das Schiff und wurden eingesteckt. Die Schwarzen haben immer eine Vorliebe für die Farbe Rot gehabt. Das war ihr Verderben. So singt sie nach Kuba gekommen.
Malgré son timbre si riche, le lamellophone est toujours associé à l'expression d'un univers intime. Une musique qui se joue au creux de l'oreille. Et par le truchement de la prise de son, on peut toujours tricher sur cette intimité. À l'image de ce délicat et fragile Embira in the Morass, du groupe pop Volcano Choir, où les plans sonores sont distribués dans un espace à la fois ouvert et resserré. Une voix qui susurre dans les aigus, un piano désaccordé s'éteignant au loin, et un lamellophone effleuré juste devant notre nez. Une image sonore irréelle, mais jouissive.
Qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Aliénor Dechet, bonsoir.
Bonsoir.
Dimitri Korlianski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes compositeur, Dimitri. Aliénor, vous êtes performeuse, metteur en scène. Et ensemble, vous avez créé un spectacle du 7 au 9 avril dernier. C'était à la Pop, une péniche à Paris, incubateur des musiques mises en scène dans le cadre d'un festival qui s'appelle Séquence Danse du 104. Une coproduction de la Pop et la compagnie La Cage, qui est votre compagnie, Aliénor Dechet. Et ce spectacle s'appelle Sous vide. Sous vide, c'est un frigo, on va le dire vraiment, c'est un frigo. Et vous êtes à l'intérieur, Aliénor. Et Dimitri, vous êtes à l'extérieur. Vous observez ce qui se passe un petit peu. Ouais. Et puis, vous traitez le son qui se passe dans ce frigo. Mais je vous proposerai avant tout d'écouter un frigo. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce frigo. Mmh. On l'écoute et on en parle de cet objet sonore. Alors c'était un frigo que nous avons pris dans notre grande banque de données à Radio France, un frigo lambda peut-être, mais finalement Dimitri Korlianski, Aliénor Dechet, un frigo c'est un objet sonore, c'est un objet physique. Est-ce que pour vous ce frigo qui pourrait être tout à fait lambda, quotidien, devient sur scène cet objet précieux dans lequel vous allez faire votre performance à deux?
De mon côté peut-être, je veux dire que pour moi c'est pas un objet sonore, vraiment. C'est un objet de solitude. C'est un objet de vacuum, d'absence. Ça, c'est le plus important pour moi. Donc, rarement je travaille avec les sons comme le point de départ. Le son, c'est quelque chose que j'arrive à la fin et le son, c'est quelque chose que fait de surprise pour moi. Donc, moi, je préfère de commencer par créer une situation qui peut produire peut-être ou peut-être pas de son. Et cet effet de surprise qui vient à la fin, c'est, pour moi, c'est le plus important. Parce que j'ai un tout petit peu peur, je sais que votre émission est sur le son, mais je vais dire quelque chose de différent. Parce que, surtout aujourd'hui, il y a un danger de fétichisation du son. Mmh. Oui, on a beaucoup de voix d'inspecter le son, de vraiment entrer dans le son, dans la nature sonore, trouver les spectres et tout ça. Donc on a vraiment les chirurgues de son aujourd'hui. Peut-être c'est le temps d'aller un tout petit peu dehors de son et de regarder dans les situations d'opération de son.
Oui, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas le son en lui-même du frigo qui est intéressant, c'est vraiment la situation du frigo, oui. Cet objet du quotidien. Alors vous parlez de solitude, c'est vrai que quand on ouvre un frigo, on est souvent tout seul face à son frigo, ça nous parle, c'est très intime le frigo, on peut lire une personne par son frigo. Aliénor Dechet, quand cette idée de sous-vide, ce spectacle vous est venue, est-ce que ce frigo s'est imposé tout de suite comme, pour vous, comme étant une boîte de solitude, une boîte de l'intime chez la personne que... Enfin, finalement, on s'enferme dans son frigo quelque part.
Oui, alors ce qui est drôle, c'est que c'est une situation qu'on a vraiment trouvée ensemble.
Oui.
Mais donc, on s'est rencontrés il y a 2 ans avec Dimitri. Je suis allée à Moscou pour travailler avec lui. Et je crois qu'on s'est tout de suite compris sur cette question de situation. Je pense que c'est bien que tu en aies parlé. Parce que moi, quand je construis des spectacles, je pars en général aussi de l'espace pour chercher la musique qui va aller dans cet espace, pour chercher les textes qui vont aller dans cet espace. Voilà, et on est arrivé sur ce frigo qui... Alors, vous parliez d'objet précieux. Non, c'est pas du tout un objet précieux, c'est un objet du... Au contraire, c'est un objet tout à fait banal. C'est plutôt là-dessus que ça nous intéresse. C'est-à-dire que tout le monde va reconnaître le son du frigo, va se retrouver dans les gestes. Bon, ceci dit, peut-être pas tout le monde va dans son frigo en général.
Oui, enfin, je disais, on s'immerge. Enfin, moi, quand j'ouvre mon frigo, j'ai une envie d'aller... On fouille, on va à l'intérieur, on se rapproche. Et c'est vrai qu'on peut lire quelqu'un à travers son frigo. On a vraiment une sorte de lecture. C'est comme, voilà, on ouvre une armoire, on voit comment il est habillé. Vous, en allant dans le frigo et en restant quasi 3/4 d'heure dans un frigo allumé, donc avec ce bzzz constant, vous créez une performance qui nous oblige aussi à nous questionner à notre rapport à ces objets de tous les jours, ces objets pauvres de l'électroménager.
Oui, tout à fait. En fait, que j'ai rapproché cet objet pauvre... du frigo à des thèmes qui sont plus grands, entre guillemets. C'est-à-dire que le frigo, c'est le lieu de l'intime, c'est aussi le lieu où on planque un peu des choses.
On oublie des choses aussi.
On oublie des choses, voilà. C'est un peu l'objet du l'endroit d'un certain souterrain. On n'a pas forcément, on n'a plus forcément de cave maintenant qu'on a des appartements, mais ça se rapproche aussi un peu à cette idée de la cave dans une maison, où on a aussi un congélateur. Et puis, au sens large, effectivement, de la grotte, qui est un peu l'endroit où, finalement... C'était le frigo des hommes préhistoriques.
C'est l'endroit frais, quoi.
Voilà.
Ouais. Et c'est vrai que la grotte est très régulièrement... revient très régulièrement dans le spectacle sous forme de texte. On va en parler au fur et à mesure, mais je vous propose d'abord d'écouter peut-être un extrait de votre spectacle, une captation live, où on entend vraiment des gestes à l'intérieur de ce frigo. Et puis on va reparler de ce traitement sonore que vous donnez à ces sons provenant d'un frigo fermé. Dimitri Kolyansky, donc voici un extrait de Sous vide, de votre performance à deux. Un petit extrait de Sous vide, votre spectacle, Ainer Doché et Dimitri Kolyansky, dans lequel on entend finalement des sons de tous les jours, comme ce couinement contre une vitre qui devient de plus en plus froide, puisque le frigo est en marche, et Ainer, vous êtes à l'intérieur. Et puis on entend ce son qui vient de l'intérieur, on entend vous cognez aux parois du frigo, vous essayez de vous battre, finalement peut-être avec ce frigo, je sais pas. Hein, mais... Et puis on entend comment Dimitri Kolyansky vous traitez ce son, et là la situation crée du sonore. Et Dimitri Kolyansky, est-ce que vous avez prévu une palette d'effets sonores pour pouvoir traiter ces sons qui viennent de l'intérieur pour l'amener au public qui lui est à l'extérieur, ou bien c'est aussi une réaction pour vous à la situation qui est donnée sur scène?
Bon, c'est tous les deux. Bon, en fait c'est fait assez simple. Frigo, c'est déjà un objet simple, mais on traite ça dans la direction assez simple. Donc, il y a deux micros dedans et il y a deux petites haut-parleurs dedans aussi pour créer le feedback.
Le Larsen, voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un son qui va tourner à l'intérieur du frigo.
Oui, c'est ça. Je joue entre le son de feedback et le son d'intérieur de frigo, vraiment juste amplification des sons naturels de mouvement de Ainer dedans. En plus, j'utilise quelques très simples presets de mixing board,
de table de mixage.
Oui, c'est ça. En général, les effets sont très banals, je veux dire. Mais quand tu travailles avec le feedback, dans la situation de frigo aussi, ils donnent beaucoup de surpris, je peux dire.
On peut dire que c'est une des premières choses qu'on a faites quand on a commencé à travailler ensemble, c'est de voir si la position du corps dans le frigo faisait se déplacer le feedback.
D'accord. C'est ça. Le mouvement dans le frigo aussi change le feedback, change le...
C'est-à-dire qu'on vous voit vraiment vous avancer contre la vitre, vous mettre contre des parois.
Oui, parce que ce que vous n'avez pas dit, mais je pensais bien de le dire quand même, c'est que la porte du frigo est vitrée.
Oui, quand même, on vous voit.
Donc on voit quand même ce qui se passe dedans. Et bon, je peux me cacher aussi quand je veux.
Oui, c'est vrai que vous mettez des choses sur la porte pour éviter de vous montrer. Et c'est vrai que vous vous déplacez, Ainer, à l'intérieur pour chercher finalement à créer une matière sonore par des mouvements, des contorsions. Pour vous, il y a quand même une forme de solitude qui se crée parce que vous nous tournez le dos en tant que spectateur, vous vous cachez, et puis à la fois vous essayez de transmettre ce qui est à l'intérieur de votre frigo au public. Est-ce que c'est cette idée de se rapprocher, de casser une frontière qui est finalement celle de la porte du frigo, essayer de vraiment rapprocher le public de votre expérience de l'intérieur?
Alors moi, de l'intérieur, j'ai pas du tout l'impression de me rapprocher des gens. C'est plutôt une expérience vraiment personnelle que je fais avec moi-même. Et pour moi, c'est très agréable en tant que performeuse parce que j'ai pas du tout à jouer un rapport avec un public. Par contre, il y a un rapport qui se passe avec le son. C'est-à-dire que je vais sentir des choses et je vais réagir à ce qui se passe parce que moi, j'entends aussi. J'entends pas tout, mais j'entends certaines choses. Donc, c'est plutôt un rapport entre moi et l'objet. Et l'objet est vivant.
Et c'est vrai que là, on a entendu, par exemple, une sorte d'évolution qui se crée dans ce son-là. Et puis, au fur et à mesure, on a de plus en plus une sorte de dramaturgie sonore qui se crée. Enfin, peut-être des mots qui sont un peu forts pour la situation. Et moi, ça me fait penser, par exemple, à des performances que vous avez pu donner aussi, où on a vraiment cette idée, quand même, d'un enfermement qui peut se créer, un endroit où vous vous situez à l'Énor d'Auché. Et finalement, vous invitez souvent le public à venir assister à ces endroits d'enfermement. Je pense, par exemple, c'était l'Errance, un cube dans lequel vous invitiez les gens à venir avec vous à l'intérieur pour pouvoir écouter ce qui s'y passait. Ou bien, il y avait aussi le 72 x 41 x 35, c'est une boîte qui se resserrait au fur et à mesure sur vous. Dans ces performances vraiment physiques, vous vous mettez dans une situation physique, on va pas dire extrême, mais dans laquelle vous avez votre corps est un peu malmené. Là, on est encore dans cette continuité-là avec sous vide, c'est-à-dire le froid, cette solitude, et puis ce public qui devient un peu voyeur. Est-ce que vous, cette position de voyeur vous intéresse en tout cas en tant que performeuse?
Non, voyeur, pas du tout. Par contre, le partage, oui. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment fort qui m'habite. Et voilà, je propose aux gens de le partager. Et les expériences que j'ai faites jusqu'à présent, c'est qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Et vous parliez de la proximité du public. Et moi, je m'en suis rendu compte vraiment après coup du fait que le public est avec moi dans le frigo. Mais, ouais. Mais moi, de l'intérieur, non. Il n'est pas avec moi. Mais eux, ils sont avec moi.
C'est ça, oui. Il y a vraiment une frontière qui se casse finalement,
oui,
quelque part.
Mais c'est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé dans le projet.
Et d'ailleurs, quand vous mettez à lire des textes, vous portez une parole qui n'est pas nécessairement la vôtre, qui est une parole de tout autre auteur, parce qu'on peut vous citer Platon, Georges Bataille, on va écouter tout de suite un extrait. Et là, vous parlez finalement d'une situation qui se rapproche un peu de là où vous êtes. C'est cette fameuse grotte, cet enfermement derrière la grotte. Et l'image de Platon revient fréquemment dans vos textes de présentation, parce que quand on est face à son frigo, on ne regarde pas ce qu'il y a derrière.
Alors Platon, c'est déjà parce que c'est quelqu'un qui a porté une idée de la grotte suffisamment complexe pour qu'elle nous porte encore aujourd'hui. Et puis c'est une recherche en fait. C'est ça que je trouve assez beau, c'est que ce frigo, ça donne pas de solution, mais il y a une recherche, il y a une espèce de voilà un chemin pour trouver quelque chose qu'on ne trouvera pas. Mais les textes, c'est pas pour donner des réponses, c'est vraiment pour montrer le cheminement qu'il y a pu se faire, parce que c'est vraiment, voilà, c'est simplement ce qui j'essayais de chercher, pourquoi la grotte m'intéressait et ce qu'il y avait à y trouver, etc. Peut-être il y a une chose que je peux raconter, excuse-moi, je prends un peu la parole longtemps là, mais...
Oui.
Parce qu'au cours du cheminement, il y a... Bon, j'ai travaillé, je suis allée voir mes amis pour leur parler du projet, leur dire je sais plus, je suis perdue, je sais même plus de quoi ça parle, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et je me suis aperçue au fur et à mesure que vraiment le cœur du projet pour moi, c'est que j'ai fait de la spéléo avec mon père beaucoup quand j'étais jeune. Bon, donc j'aimais beaucoup les grottes, ça c'est sûr. Et puis à 19 ans, on a eu un accident. Donc on a cru tous les deux qu'on sortirait plus jamais de ce gouffre. On a fini par sortir, sinon je serais pas là. Mais bon, ça a été une expérience forte pour moi de... Déjà de pas savoir si j'allais survivre, et puis de perte de confiance aussi vis-à-vis d'une personne qui me protégeait jusque-là. Donc c'est... Voilà, il se trouve que cette question de la grotte, elle m'habite. Et voilà, comme souvent, je me suis aperçue un petit peu au cours du processus pourquoi j'étais aussi attirée par cette question-là. Voilà.
Mais pour moi, c'est aussi une histoire assez privée, parce que moi, je suis un tout petit peu agoraphobe. Pas dans le niveau clinique, mais un tout petit peu. Donc, je me sens très bien confortable dans les endroits fermés et petites. Donc, c'est lié de mon sentiment de l'espace.
Enfin, cette question de l'espace petit, c'est un peu une obsession chez moi, mais c'est pas du tout que chez moi. Il y a plein de gens qui se relient à cette question.
Aussi, il y a toi, peut-être, tu le sens pas trop parce que tu es là-dedans, dans cette petite cage. Et moi, je suis dehors et j'essaye de communiquer avec toi parce que je reçois de toi des signaux sonores ou les signaux gestuels quand tu bouges. Donc, ça change le son que je reçois. Donc, c'est une situation de communication, d'impossibilité de communication. Donc c'est aussi intéressant, peut-être c'est une des thèmes de ce projet.
Ah, c'est sûr, oui.
Ouais. Je vous propose d'écouter justement un extrait de ce projet, donc sous vide. Là, on va écouter un texte de Georges Bataille, où le mot est repris et traité par Dimitri Kolyansky, et donc avec une évolution, et puis surtout ce son-là qui naît de la situation jusqu'au feedback, le Larsen.
Un homme, mort dans le sable, est étendu, abattu devant un lourd animal immobile, menaçant. Cet homme est en vision. Et la menace qui en émane est d'autant plus lourde qu'il la dénise. Il est blessé, et sous son ventre vert se délivrent ses entrailles. Apparemment, c'est cet homme étendu qui frappe à l'animal mourant de son javelot. Mais l'homme n'est pas tout à fait un homme. Sa tête, celle d'un oiseau, se termine par un bec. Rien dans cet ensemble ne justifie ce fait paradoxal que l'homme et le sexe lobé.
Extrait du spectacle Sous vide. Ici, on était en, comment dire, dans une mise en boucle vraiment de l'espace dans lequel vous êtes à l'Inner d'Auché, puisqu'on a le frigo, vous êtes à l'intérieur, vous lisez ce texte de Georges Bataille, et puis on entend ce Larsen, ce feedback qui revient en boucle. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une image aussi de nous-mêmes face à ces objets? C'est-à-dire, on est en boucle, et puis on a une sorte de feedback constant, ce Larsen de notre propre vie face à des intérieurs, des tout petits espaces dans lesquels on pourrait se retrouver et finalement être complètement figé dans ce frigo.
Oui, Dimitri Kolyansky. En fait, pour moi, c'est ça le thème, oui. absolument. C'est comme je traite cette performance. Exactement.
Et justement, en travaillant sur le feedback, parce que le feedback est quand même une matière sonore qui est tout à fait imprévisible, et comme vous disiez, vous aimez la surprise, pour vous, ce feedback permet à la fois d'arriver à une matière que vous allez maîtriser au fur et à mesure, ou bien vous la laissez justement partir au fur et à mesure?
Non. J'essaie de contrôler, bien sûr, donc c'est un processus très vivant. Je dois dire que c'est la première fois que je fais. On peut dire que c'est la vraie improvisation.
En tout cas, du live électronique.
Oui, absolument. C'est la première fois que je fais ça.
Que tu interprètes aussi, quoi.
Oui, en plus que je suis interprète. Parce que j'ai commencé comme flûtiste, comme interprète, mais il y a 20 ans que j'ai arrêté. Et je pensais que je jamais reviens en scène.
Le propre du compositeur aujourd'hui, c'est-à-dire le compositeur est derrière sa partition, son ordinateur.
Oui, non. Donc je suis là avec feedback. Et avec mon idée de agoraphobie. Mais c'est une situation assez riche, en fait. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent que j'essaie de garder. Oui, quand j'attends quelque chose d'intéressant, vraiment, j'essaie de garder ce matériel. On peut dire que c'est une petite bataille avec le son, mais...
Moi, je suis étonnée quand même que tu retrouves quand même de manière assez précise ce qu'on a trouvé.
C'est-à-dire que les sons revenaient,
Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi qu'on ait une capacité de reproduction telle.
C'est-à-dire qu'en fonction des différents endroits où vous avez pu travailler, à chaque fois, vous retrouviez quand même cette matière-là.
Bah, y a des moments où, par exemple, il y a une répétition où il y avait un truc qu'on avait trouvé et que moi, je recherchais, etc. Je suis allée voir Dimitri, je me disais, ah, mais il y avait un truc qu'on avait trouvé, c'était bien, recherchons-le. Et on l'a retrouvé. Donc...
L'idée de cette performance qui est à la fois une prise de risque, je pense, parce que pour vous, Alain Dechet, d'être dans ce froid, dans cet endroit fermé, et pour vous, Dimitri Kolianski, vous disiez que vous n'êtes pas interprète, et là, tout d'un coup, vous vous lancez à faire de la musique en direct, cette prise de risque, vous essayez de toujours la renouveler, cette sensation de prise de risque, ou bien justement de trouver une forme de partition, un schéma où vous pouvez retrouver des pôles dans lesquels vous pouvez vous rassurer.
Moi, j'ai toujours une prise de risque à chaque représentation. Quand je rentre dans le frigo, j'ai le cœur qui bat. Parce que c'est... Parce qu'il ne faut pas que je perde connaissance, parce que c'est moi qui dois réouvrir la porte à la fin, et que je sais que c'est très physique. Ça, j'ai pas encore perdu le cœur qui bat, ça, c'est clair.
Mais finalement, un performeur cherche tout le temps ce cœur qui bat.
Je sais pas, je me considère pas comme une performeuse professionnelle. Non, pas forcément. Par exemple, sur la performance dans la boîte.
La boîte qui se resserre au fur et à mesure. Non, c'était pas.
Si, j'ai le cœur qui bat aussi. Mais, je sais pas si je recherche le cœur qui bat. Je sais pas si c'est une recherche en soi. Mais c'est vrai que je recherche des situations extrêmes. Mais ça, c'est pas seulement en performance. Je pense que c'est dans la vie aussi.
Oui, ça. Mais l'acte performantiel fait écho à une vie aussi. Ça, oui. C'est souvent. Et cette prise de risque, cette manière d'aller au-delà, pour vous, Dimitri Kolianski, à travailler ces sons qui sont, comme vous disiez, un peu neufs, est-ce que c'est aussi une manière pour vous de vous mettre à nu? C'est-à-dire le compositeur qui se cache souvent tout d'un coup, il devient beaucoup plus intime pour le public quand il est là, présent, à se mettre à nu?
Oui, un peu. Bon, je veux dire que l'art, c'est peut-être un territoire où c'est pas dangereux de perdre le contrôle. Dans la vie, c'est vraiment dangereux parce que ça peut finir pas bien. Mais dans l'art, c'est ça la possibilité de vraiment perdre le contrôle. Dans ce projet, je sens un peu, dans cette situation incontrôlée, et j'aime beaucoup. Et peut-être, ça me donne aussi des idées pour ma travail prochaine, pour
les situations de déséquilibre.
Oui, c'est ça. Pour ouvrir l'art dans les espaces incontrôlés.
Alinor Dechet, Dimitri Kolianski, je vous propose, on va écouter peut-être un dernier extrait de votre sous-vide.
Après, j'aurais juste une idée que j'ai pas réussi à dire tout à l'heure.
Allez-y, je vous écoute.
Ça va peut-être un peu loin, mais c'est un truc qu'on s'est jamais dit, Dimitri. On parlait du rapport entre quand je suis dedans et l'objet et toi.
Oui.
Et ce que je ressens de plus en plus, c'est que c'est le rapport entre la personne seule avec le frigo ou avec la grotte, c'est un rapport avec la nature ou un rapport avec une certaine idée de l'au-delà ou quelque chose comme ça, qui est un dialogue et qui rentre en feedback. C'est-à-dire que le dialogue avec Dieu ou je sais pas, il est en boucle. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de... Ça va peut-être un peu loin ce que je dis, hein, mais je trouve qu'il y a un endroit où touche quelque chose dans le rapport qu'on a à la nature et le dialogue, ce qu'on lui dit et ce qu'elle nous répond.
Mmh. Et que là, vous essayez de créer avec un frigo.
Et que moi, je ressens de plus en plus dans la... quand je performe, en fait.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à un état où vous dites, j'avance peut-être vers ça, vers ce... cet aller-retour entre une situation, moi, et puis l'auditeur, ouais. Le spectateur.
Non, entre moi et le frigo.
D'accord, et l'objet, quoi.
Il n'y a pas de spectateur, il n'y a que le frigo.
Alors cette situation-là vraiment touche à mon thème, dans cet intime, c'est-à-dire que vraiment, Aliénor, vous êtes dans ce frigo, et vous parlez de vous avec cet objet, puis Dimitri, vous êtes autant spectateur que les autres spectateurs de ce qui se passe. Et
je
vous
précise,
décidera...
quand je dis moi le frigo, c'est moi Dimitri,
hein, oui, évidemment.
Bien sûr, parce que c'est lui qui est un peu l'entité
frigo.
Frigo.
Voilà. Et donc cette situation avec ces spectateurs et Dimitri qui sont à l'extérieur et qui observent cette situation, avec cette manière de se rapprocher par le son, de finalement essayer de toucher sensoriellement ce que vous vivez à l'intérieur. Alors on va écouter un dernier extrait de cette situation avec des feedbacks, puisque c'est un peu la base aussi du travail sonore, qui nous permettra de nous rapprocher, mais évidemment ça se voit plus que ça s'entend, enfin quoi que les deux, ça s'entend et ça se voit, donc j'invite tout le monde à aller voir ça. C'est sur cet extrait de Sous Vide, un spectacle d'Aliénor Daucher et Dimitri Kourlianski que nous quittons. Merci beaucoup Dimitri, merci beaucoup Aliénor.
Merci.
Alors ce spectacle sera en tournée, il est le 3 juin prochain au Théâtre Schauspiel à Stuttgart. Et puis ensuite, pour la saison 2017-2018, on pourra le retrouver à Stuttgart, Moscou et en Europe partout. Évidemment, les informations, on les trouve sur le site de votre compagnie, Aliénor Daucher, c'est-à-dire lacage.org. Ce spectacle a été créé dernièrement à la péniche La Pop à Paris, un incubateur des musiques mises en scène, c'était du 7 avril au 9 avril dernier, dans le cadre du festival Séquence Danse du 104. Alors les infos pour La Pop, c'est lapop.fr, mais aussi on peut suivre l'activité de Dimitri Kourlianski, puisque Dimitri, vous serez prochainement à la Biennale de Venise, puisque vous serez dans le pavillon russe, avec un projet qui s'appelle Commedia delle Arti, performance installation, donc ce sera à partir du 12 mai, c'est jusqu'en novembre.
Jusqu'en novembre.
Voilà, une énorme installation. Tout ça, ce sera sur votre site internet kourl.ru et également sur votre SoundCloud, soundcloud.com/kourlianski, où on peut écouter énormément de votre musique assez diversifiée, s'il en est. Merci beaucoup à tous les deux et j'espère à très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Premier épisode du Cri du Patchwork sur l'intime. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Delphine Baudet. Merci à Flora Sternadel et Marie Bouchier à la recherche de son. La semaine prochaine, on prolonge notre plongée dans l'intime en compagnie du compositeur Gérard Pesson, apôtre de la fragilité et du son ténu. Porte-étendard de toute une génération qui partit à la pêche aux petits sons effacés. Ces détritus de sons, ces bribes de sons qu'il s'agissait ensuite de composer. Une rencontre avec l'un des grands écoutants de notre époque, qui a su livrer ce qu'il avait en tête dans la mythique émission Boudoir et autres sur France Musique pendant de nombreuses années, lorsque l'intime touche à l'infime. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr. Vous pourrez également podcaster cette émission. Chers écoutants.
Si je fais 1, Tagaram, 1, para, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, para, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein, bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit, je passe la main à Anne Montaron et son ala brévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.